Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine que vous, magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. Une émission préparée ce matin par Bertie Bourdon, mais aussi Hélène Lefrançois, Margot Le Ridon, Rosalie Suc, réalisée par Vincent Abouchard, et mise en onde ce matin par Marie-Claire Mabadi. Premier temps d'une série que nous allons consacrer au textile, aux vêtements, sous toutes ses coutures, si je puis dire, de l'usine au dressing, une odyssée du vêtement. Nous parlerons du défi social de l'industrie du textile. Mercredi, nous regarderons comment le secteur façonne la ville, et notamment du côté de Sao Paulo. Jeudi, nous parlerons de mode et de genre. Mais pour commencer, arrêtons-nous sur la production, un très bon révélateur de la globalisation, de ses évolutions, de ses effets. Du Vietnam à l'Éthiopie, itinérance des pôles de production, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
On a ouvert une usine en Éthiopie parce qu'il y a de nombreuses personnes qui sont au chômage dans ce pays. Donc, les salaires sont moins élevés. En Chine, on paye un ouvrier 500 dollars par mois. Ici, c'est 50.
Le textile est l'une des clés du secteur économique pour nous au Bangladesh, car il est à l'origine de près de 80% de nos devises étrangères et emploie plus de 4 millions de personnes. H&M est l'un de nos grands partenaires dans le cadre de nos initiatives en faveur d'une croissance durable. Nous voulons contribuer à l'amélioration des conditions de travail dans le secteur textile au Bangladesh. Et c'est pourquoi, depuis plusieurs années maintenant, nous avons investi beaucoup de moyens afin d'améliorer l'industrie textile bangladaise. Prendre nos responsabilités dans ce domaine est très important pour nous, surtout vis-à-vis de notre clientèle.
L'Éthiopie, le Bangladesh, deux nouveaux pôles de production en pleine saison des soldes et des défilés. Nous nous penchons ce matin sur l'industrie du textile. Si la Chine s'est imposée ces dernières années comme le producteur mondial du textile et a inondé le marché européen dès son entrée dans l'OMC au début des années 2000, sa production subit elle aussi des changements. En effet, peu à peu, elle aussi sous-traite à d'autres pays de la région plus compétitifs en termes de coûts, comme au Vietnam ou au Bangladesh, voire même du côté de l'Afrique. C'est le cas par exemple de l'Éthiopie, où les ouvrières sont très peu chères. Alors aujourd'hui, quels sont les pôles de production du textile? L'industrie textile va-t-elle inlassablement se déplacer à la recherche de la main-d'œuvre la moins chère? D'ailleurs, comment s'est faite cette internationalisation de la filière? Que nous-t-elle des rapports Nord-Sud, des rapports Est-Ouest? Et jusqu'où peut-on miser sur une relocalisation des industries textiles, en particulier en Europe et peut-être aussi en particulier en France? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité ce matin d'abord un économiste, Al-Mouhoud Mouhoud, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes économiste, professeur à l'Université Paris-Dauphine, un spécialiste de la mondialisation. Vous aviez d'ailleurs écrit récemment un ouvrage sur cette question mondialisation et délocalisation des entreprises, c'est à la découverte. Un autre économiste, mais plus dans le monde direct de la mode, Dominique Jacomet, bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous. Vous êtes-vous professeur à l'Institut français de la mode et vous aviez écrit aux éditions Economica mode textile et mondialisation. On va commencer peut-être avec l'économiste, le spécialiste de la mondialisation, Al-Mouhoud Mouhoud. Je vais prendre la chemise là que je porte là actuellement. 65% polyester, 35% coton. Alors c'est probablement un coton qui a dû être produit du côté de la Chine. C'est le premier exportateur de coton au monde. Cette chemise, elle a été faite au Bangladesh et elle a été achetée quelque part dans une enseigne en Europe, enfin en l'occurrence en France. C'est vraiment cette chemise, d'ailleurs probablement là où elle a été imaginée, conçue, pensée, c'est vraiment le symbole de la mondialisation, cette chemise que je porte sur moi. En tout cas, c'en est un très bon révélateur.
Oui, c'est le révélateur le plus, disons, le plus direct de ce qu'est un produit qui est porté par tout le monde, qui est consommé de manière massive et qui est fabriqué ailleurs que dans le pays de consommation. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle en fait la fragmentation de la chaîne de valeur. Les produits se décomposent en morceaux et puis certains morceaux sont envoyés quelque part. Parfois même, on n'a pas besoin d'envoyer les morceaux, on les fait assembler au Bangladesh parce que ça coûte beaucoup moins cher, et puis on les redistribue vers les pays de consommation. Donc oui, c'est un prototype. Alors cela dit, ça représente pas non plus une masse considérable dans la valeur ajoutée produite, dans ce qui est consommé tous les jours. C'est symbolique, c'est important, mais il faut pas en exagérer, disons la l'impact réel.
Dominique Jacomet, est-ce que c'est un produit de la mondialisation comme un autre, ou est-ce qu'il existe dans le secteur une spécificité ?
Il existe plusieurs spécificités. La première, c'est que c'est une mondialisation qui est très externalisée, c'est-à-dire que les multinationales, dans d'autres secteurs, ont internalisé la mondialisation. Elles ont des filiales, etc. Dans le secteur du textile et de l'habillement, c'est massivement ce qu'on appelle dans le jargon l'outsourcing. Donc ça c'est une caractéristique. Une autre, peut-être, qui surprend toujours, c'est que dans le terme mondialisation, on s'attend à ce qu'il y ait énormément de pays producteurs. Je crois qu'il y a 190 États sur la planète. Et si vous regardez le commerce mondial, par exemple, de vêtements, vous avez 10 pays qui font 85% des exportations. Donc c'est très concentré.
En fait, géographiquement concentré, ouais.
C'est très concentré, absolument.
Quand on parle de globalisation, El Mohamoud, on pense d'abord et avant tout, en particulier dans ce secteur, à la question de la délocalisation. Depuis quand est-ce qu'on délocalise, et depuis quand finalement, parce que c'est la première conséquence de la mondialisation du secteur, la délocalisation, depuis quand est-ce qu'on délocalise?
Alors ça, c'est très intéressant parce que c'est pas du tout un phénomène nouveau, contrairement à ce qu'on pense. Ça a évidemment déferlé dans les années 90-2000, mais la délocalisation dans l'industrie du textile, de l'habillement, du cuir et de la chaussure, c'est un phénomène ancien. Les premières entreprises qui ont fait ça de manière très organisée, ce sont les entreprises américaines et les entreprises allemandes. En particulier, je prends le cas des entreprises allemandes. Dès 1958, j'avais étudié ça il y a longtemps, les entreprises sous-traitées donc d'Allemagne de l'Ouest de l'époque, les costumes en Hongrie, les vêtements en Pologne, enfin toute une série, ils avaient une sorte de division du travail dans différents pays pour utiliser une main-d'œuvre bon marché, mais aussi productive, dans un contexte où, dans les années 50, 60, les cycles de production étaient très longs, c'est-à-dire entre le moment où on concevait un vêtement et le moment où on le mettait sur le marché, il pouvait s'étaler quelque chose comme 18 mois jusqu'à 2 ans. Aujourd'hui, les cycles sont très très courts. Donc la délocalisation pour aller chercher de la main-d'œuvre moins chère, réimporter le produit final, chez les Allemands, ça a été extrêmement bien maîtrisé avec, disons, leur satellite Interland d'Europe centrale et orientale communiste de l'époque. Et puis ensuite, ça a plutôt... ça s'est accéléré dans les années 80 en France. La France a opéré un mouvement de délocalisation plus tardif que l'Allemagne. Un peu d'ailleurs par deux effets. D'une part par mimétisme, parce que vous voyez que ça marchait relativement bien en Allemagne, mais aussi parce que la France a commencé à délocaliser à partir de la seconde moitié des années 80, au moment où l'ensemble des plans d'aide au textile avaient chuté. Et donc c'était une façon, face à la déprotection liée à l'intégration dans le marché unique européen, et bien peu à peu les entreprises ont été tentées vers la délocalisation. Donc non, la délocalisation c'est pas un phénomène nouveau, elle était beaucoup plus organisée, maîtrisée sur des cycles plus longs à cette époque, et aujourd'hui, le problème, c'est, et on en parlera peut-être, c'est pas vraiment un problème, mais c'est le fait qu'elle est organisée sur des bases d'emblée mondiales, très concentrées quand même, malgré tout, et sur des échelles de temps extrêmement raccourcies. Donc les entreprises sont face à une sorte de tension entre exploiter les différences de coûts de main-d'œuvre dans le monde, mais de coûts salariaux par unité produite surtout, et puis en même temps répondre extrêmement vite au flux pour les consommateurs et adapter la demande. Donc en fait, cette tension, elle se fait dans un contexte de diffusion des technologies de l'information, des sciences de données, et c'est comme ça que l'industrie est en train de se renouveler. La mondialisation ne recule pas, elle se réorganise sur de nouvelles bases.
On reviendra évidemment sur un certain nombre de ces points. Dominique Jacomet, pour comprendre le processus d'internationalisation de cette filière, faut introduire alors quelque chose que les auditeurs connaissent pas forcément. Moi, je dois vous dire que je l'avais déjà entendu, mais je savais pas exactement ce qu'il y avait derrière. C'est les accords dits multifibres. Racontez-nous ce que c'est ces accords multifibres, à quand il faut remonter pour les voir émerger, ce qu'ils ont changé dans le monde, et puis on verra aussi dans un second temps ce que l'abandon précisément de ces accords, parce que c'est ça surtout, a produit. Mais d'abord, le début.
Oui, parce que c'est vrai que c'est une industrie qui a... Il y a eu une sorte d'organisation, je dirais, de la mondialisation d'après-guerre. Donc c'est intéressant de voir que c'est au sein du GATT que s'est mis en place un accord multifibre, donc plutôt dérogatoire par rapport aux objectifs du GATT, qui était en effet d'abaisser les barrières au commerce international, et un accord fondé sur un système de quotas, donc un système quantitatif en volume. Alors ça a commencé avec le GATT, sous la pression des États-Unis, qui avaient eu des problèmes déjà avant-guerre avec le Japon, puisque le Japon a été des premiers bénéficiaires de la mondialisation, alors là, du textile proprement dit, c'est-à-dire les fils et les tissus. Et puis, évidemment, sont arrivés ensuite plein de concurrents, et on se souvient de ce qu'on appelait les dragons asiatiques, parce qu'on ne parlait pas de la Chine à l'époque. C'était la Corée, c'était Hong Kong, mais qui était britannique, c'était Singapour, c'était ça, si vous voulez, les fameux dragons asiatiques qui Taïwan, menaçaient l'Europe et les États-Unis, et Taïwan, bien évidemment, qui jouait un rôle très très important. Alors, cet accord multifibre, il a duré pratiquement jusqu'au début des années 2000, et là, on a commencé le désengagement de l'accord, et le point d'orgue ayant été, vous l'avez dit tout à l'heure, l'entrée de la Chine dans l'OMC. Alors, il a
donc entré en vigueur en 1974, et on l'abandonne complètement en 2005, pour donner une idée aux auditeurs.
Et décide son abandon en 1994 aux accords de Marrakech, au moment de la création de l'OMC.
Ouais.
Donc, on laisse 10 ans pour
ans de ce qu'on appelait le phasing out.
On en parlera peut-être, mais les entreprises n'ont pas, et les États non plus, n'ont pas anticipé ce délai de 10 ans, ce qui était très intéressant pour comprendre comment les chocs ensuite dans les bassins d'emploi ont été importants alors qu'ils auraient pu être anticipés.
Je vous rends la parole tout de suite, Dominique Jacomet, sur ce point-là, qui est un point que vous développez beaucoup dans votre livre.
J'en ai beaucoup parlé. L'accord, si vous voulez, apparaissait à beaucoup, notamment de groupes de pression, du commerce, de la distribution, très protecteur. Et en fait, quand on regardait les choses dans les détails, comme c'était, si vous voulez, en volume, il poussait les pays exportateurs à monter en gamme. Donc il avait quand même un effet pervers relativement considérable, puisqu'il voulait évidemment vendre par unité produite plus de valeur.
Alors, vendre par unité produite, voilà là une formule sur laquelle il faut peut-être se pencher un tout petit peu, Elmo Mouhoud, et là je vais faire appel à votre sens de la pédagogie, parce que quand on parle compétitivité, on pense tout de suite à la question des salaires. Mais c'est un tout petit peu plus compliqué, un tout petit peu plus compliqué, parce que vous dites que ce qui est essentiel, c'est précisément ce coût salarial par unité produite. Vous nous expliquez la différence et pourquoi c'est au cœur finalement de la compétitivité de ce secteur en particulier?
Oui, tout à fait, parce que, par exemple, si vous prenez le salaire en Éthiopie, aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure dans l'habillement, c'est 26 dollars à peu près, jusqu'à 50 dollars par mois de salaire en niveau. Évidemment, c'est très très bas. Maintenant, quand vous rapportez les salaires et la productivité, les écarts sont plus faibles avec les pays européens. Je prends le cas des pays émergents, Chine comprise. En 2000, le rapport entre les salaires et la productivité. La productivité, donc, quel est le temps de travail que vous consacrez pour obtenir la même quantité de biens. Et si vous pouvez réduire votre quantité de travail pour produire la même quantité de tissu, vous avez augmenté la productivité. Et si vos salaires sont restés constants, votre coût sur la productivité a baissé, donc le rapport a baissé. Ben, c'est ce qui s'est passé exactement durant les années 2000 jusqu'à aujourd'hui. Les pays émergents avaient un avantage de compétitivité qui était à peu près de 40% du coût salarial unitaire américain. C'est-à-dire qu'en fait, le coût salarial par unité produite des pays émergents, en 2000, c'était à peu près 40% du coût salarial américain. Ce coût salarial par unité produite a rattrapé celui des États-Unis. Très nettement. C'est-à-dire qu'il n'y a plus tellement d'écart de coût salarial par unité produite pour l'ensemble de l'industrie manufacturière. Pourquoi? Parce que la productivité s'est accélérée considérablement dans les pays riches. Aux États-Unis, les salaires sont restés stables. Tandis que les salaires ont augmenté en Chine, ont augmenté dans les zones côtières en particulier très fortement, mais la productivité n'a pas suivi. Donc l'écart se rattrape. Maintenant, s'agissant de l'industrie textile, c'est là où c'est important. Je pense qu'il faut être un peu plus précis sur la situation. L'industrie textile est traversée par des chevauchées technologiquement. L'amont de la filière, les filatures, le tissage, c'est automatisé depuis belle lurette. Donc le coût salarial par unité produite, en 79 déjà, en 80, 1980, il était déjà meilleur dans les pays riches que dans les pays en développement. Parce que c'était une industrie totalement automatisée. Filature, tissage, etc. En revanche, l'habillement, l'aval de la filière, qui prend les morceaux de vêtements, de tissus, de coton, de tout ce que vous voulez, toutes les matières utilisées par l'amont, et qui les coupe d'abord, puis ensuite les assemble pour en faire des produits, ça reste manuel. L'assemblage reste manuel. Et comme l'assemblage reste manuel, eh bien, le coût salarial demeure un élément important dans cette industrie-là, alors qu'il a reculé très fortement dans d'autres industries plus solides, où on peut robotiser les tâches, comme l'automobile, la mécanique, etc. Pas d'obstacles techniques à la robotisation. Oui, il y a des obstacles techniques très forts à l'assemblage, à la couture de vêtements. Ça change un un petit peu, mais on n'arrive pas encore, peut-être que Dominique Jacomet précisera là-dessus, on n'arrive pas encore à trouver un robot capable de manipuler des matières souples de manière efficace. Donc le chevauchement technologique, une industrie de main-d'œuvre à l'aval et une industrie très technologique à l'amont, ça produit des phénomènes plus complexes où la délocalisation se poursuit, mais les groupes finalement investissent énormément dans la marque, le marketing, etc. pour essayer de sauver les apparences. Donc votre chemise, elle peut avoir l'apparence de quelque chose qui est fabriqué en France, dans les meilleurs positionnements en termes de qualité, mais effectivement l'assemblage ou la production peut être faite à plus faible valeur ajoutée dans les pays moins avancés. Voilà.
Mais Dominique Jacomet. C'est vrai, peut-être je complète sur un point. Quand on parle de délocalisation, on fait des comparaisons. Et unité produite, coût par unité produite, c'est clé. Mais on peut même aller plus loin, c'est-à-dire calculer le coût par unité produite, le coût unitaire, mais sur rendu sur le marché de consommation. Parce que souvent, on compare des prix de sortie usine. Alors, on a la productivité qui vient corriger.
Il faut encore les emmener en magasin,
y a des droits de douane,
etc.
Il y a évidemment un certain nombre de frais, il y a du contrôle qualité. Enfin, tout ça vient augmenter, si vous voulez, les coûts notamment des délocalisations lointaines, et on voit que les comparaisons avec l'Europe ou certains pays méditerranéens sont fortement corrigés.
Si on continue à faire un peu de géographie, vous nous parliez tout à l'heure des accords multifibres, ensuite ils vont finalement voler en éclats, on est là au milieu des années 2000, peut-être raison pour laquelle la Chine va devenir le pôle majeur de la production, et puis petit à petit les choses vont changer, et on voit que ces dernières années effectivement la Chine aussi délocalise. On commence à produire du côté du Bangladesh, du Vietnam, du Laos, même en Éthiopie. Est-ce que, jusqu'où ça va aller, les pôles majeurs de production, est-ce que, là on parlait par exemple de l'Éthiopie, où les salaires sont les plus bas, en tout cas des derniers pays là que j'ai cités. Est-ce qu'on peut imaginer que demain, l'Afrique va prendre le relais finalement de l'Asie et sera le principal continent, pour ce qui est de la production j'entends, Dominique Jacomet?
Moi, je ne crois pas, si vous voulez. Je pense que l'affaire de la Chine, il faut bien voir qu'elle a encore énormément d'atouts. D'abord, du fait de sa taille, on va être bientôt 9 milliards sur cette terre. Il faut produire tout ça. C'est pas l'Afrique qui pourra le faire. Parce que la Chine, vous avez en effet une perte de compétitivité dans l'habillement des zones côtières. Mais vous avez toute la Chine centrale. Plus, en effet, les pays voisins d'Asie, le Bangladesh qui a beaucoup progressé, comme on l'a dit, mais aussi maintenant le Vietnam, puis vous avez le Cambodge, le Myanmar. Donc, ils ont énormément d'atouts. En second lieu, ils ont aussi un peu remonté la filière, parce que dans le textile, il y a plus de valeur ajoutée. Et maintenant, ils ont affirmé et renforcé leur leadership dans les textiles. Donc, ce qui fait qu'ils fournissent, si vous voulez, des fils et des tissus à tous les assembleurs de la zone. Donc pour moi, la Chine, qui a évidemment l'objectif général de monter en gamme dans les industries, va rester un partenaire important. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas en effet des satellites. Et ils essayent aujourd'hui, on l'a dit, d'aller en Éthiopie. Ils ont évidemment toute une politique vis-à-vis de l'Afrique, de même qu'il y a un fameux projet de route de la soie. Mais je crois qu'il faut voir les proportions, si vous voulez. Ça ne peut pas remplacer la Chine.
Elmo Mouhoud, sur la Chine, j'introduis un élément et puis ensuite je vous fais réagir. Il y a quelques jours, la Commission nationale chinoise du développement et de la réforme, c'est comme ça qu'elle s'appelle, a annoncé un certain nombre de chiffres pour l'année 2019 sur l'industrie textile. Et elle explique que cette industrie textile, elle est en phase de stabilisation. Alors, à peu près 12% pour le sous-secteur de la fibre, 7% pour le textile industriel, 1% pour le vêtement. Et dans le même temps, surtout, les exportations ont reculé de plus de 2%, 2,6%. Donc, ça veut dire que malgré les délocalisations, l'industrie textile chinoise se maintient. On exporte moins, mais on continue à vendre, mais surtout à l'intérieur du pays. Ça, c'est une tendance qui, en réalité, dépasse largement le secteur. C'est quelque chose qui concerne l'industrie chinoise en général, Elmo Mouhoud.
Ah oui, tout à fait, vous avez absolument raison. Ça concerne l'ensemble des flux de marchandises. D'ailleurs, quand on regarde la part des produits assemblés en Chine et dans les exportations totales de la Chine, ils sont passés de quelque chose comme 60% au début des années 2000, au moment où je vous parlais, avant que les coûts salariaux par unité produite commencent à augmenter, à 30%. Donc ils ont chuté de moitié. Donc il y a vraiment une baisse de la part du rôle de Chine comme pays atelier. pour des raisons qui sont liées à, depuis en particulier 2008-2010, à un changement dans le modèle de croissance chinois. La croissance s'est ralentie, mais la hausse des coûts salariaux dans les zones côtières est devenue insupportable, d'où des délocalisations itinérantes dans l'habillement vers l'Éthiopie, le Vietnam, etc. Et puis
donc c'est surtout, plutôt un glissement qui est subi quand même.
Oui, c'est pas forcément subi. C'est une opportunité qu'ont saisi les Chinois pour développer leur marché intérieur et faire une croissance beaucoup plus autocentrée, beaucoup plus fondée sur les provinces intérieures que sur l'exportation à faible valeur ajoutée de produits assemblés en Chine. Donc il y a un tournant, et ce tournant, il est pas mal d'ailleurs analysé par les économistes, il y a des fragilités dans le système chinois, mais je pense que je suis d'accord avec ce qui a été dit sur le fait que la Chine va conserver, en volume, en tout cas en part absolue, un rôle central, surtout que les technologies, l'information, les sciences de données vont devenir de plus en plus importantes, et la Chine a des pouvoirs en ce sens, mais je pense par ailleurs que ça ne veut pas dire que la Chine va être concentrée sur les industries de main-d'œuvre. Au contraire, elle est en train d'opérer un phénomène de changement de sa spécialisation pour aller vers le haut. Donc, en termes de spécialisation, le textile va reculer en Chine relativement à d'autres secteurs industriels ou de services. Mais en termes de valeur absolue, compte tenu de la taille de la Chine, depuis en particulier le démantèlement de l'accord multifibre en 2005, les petits producteurs qui étaient protégés par cet accord ont été complètement laminés d'une certaine manière par le fait que la Chine, effectivement, quand elle fabrique avec des économies d'échelle énormes. Donc effectivement, en termes absolus, la position de la Chine demeurera importante.
Et pendant ce temps, en France, ça va mieux.
On pense souvent que le problème des délocalisations en France, c'est le coût du travail. Nous, on pense que c'est pas le seul problème et c'est pas le principal problème. Ce qui a changé en 50 ans par rapport à l'époque où notre pays s'industrialisait, c'est que depuis les années 80, il y a beaucoup plus d'intermédiaires dans la filière de distribution qu'il n'y en avait avant. Tout simplement parce qu'avant, le fabricant était sa propre marque, il distribuait des commerçants, qui distribue au consommateur final, donc il y avait très peu d'acteurs, et du coup il suffisait de multiplier par 3 le prix de revient pour avoir le prix de vente au consommateur. Aujourd'hui, des jeans de grande marque, le prix de revient est multiplié par 10. Donc du coup, il y a beaucoup d'intermédiaires qui sont très gourmands et qui font que nos jeans sont chers. Pour retrouver des prix compétitifs en fabriquant entièrement en France, qu'est-ce qu'on fait? On réduit simplement la filière, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'intermédiaires entre la fabrication, ses étagères et nos clients.
Voilà, on entendait à l'instant Thomas Huriez, créateur des jeans 1083, qui explique comment, en réduisant les intermédiaires, on a conservé un prix abordable. J'indique que abordable, oui, mais ça reste quand même des produits qui sont assez chers. En tout cas, ce sont des produits qui sont faits en France. Dominique Jacomet, alors que les délocalisations avaient presque entièrement détruit, pas totalement, mais enfin en tout cas avaient fait très mal au secteur en France, il se trouve qu'il reprend des couleurs. Pour l'année 2019, on apprend que le secteur de l'habillement a créé des emplois l'année dernière en France. Comment le comprendre? Quels sont les moteurs de cette progression, Dominique Jacomet?
Les moteurs de la progression, c'est le grand succès que la France connaît dans l'industrie du luxe. L'industrie du luxe, c'est de la couture, mais de manière, je dirais, marginale. C'est du prêt-à-porter et puis évidemment beaucoup d'accessoires, les chaussures, la maroquinerie. Si vous prenez le prêt-à-porter, pour différentes raisons, l'industrie du luxe, bien évidemment, est attachée au Made in France. C'est important pour eux d'avoir des productions qui soient très proches. Les Chinois veulent des produits Made in France. Ils veulent pas des produits de luxe Made in China. Donc la question, en effet, c'est qu'il y a un besoin de production et vous n'avez que deux pays qui peuvent produire ce prêt-à-porter de luxe dans de bonnes conditions, c'est la France et l'Italie. Alors l'Italie a pris une position très forte, dans le prêt-à-porter masculin notamment, dans le prêt-à-porter féminin en partie, mais la France a un savoir-faire, notamment toute cette région, si vous voulez, de l'Ouest, qui va de la Normandie, en passant par la Bretagne jusqu'à la Vendée. Vous avez là un savoir-faire, c'est peut-être une des rares régions qui répond, si vous voulez, aux caractéristiques des fameux districts italiens, des clusters, où il y a une bonne, si vous voulez, synergie, coopération entre les différents acteurs. Et en effet, il y a des besoins de main-d'œuvre, et il y a même une difficulté à attirer à nouveau des opératrices de production, parce qu'évidemment, il y a les souvenirs des crises passées, etc., dans ces métiers qui offrent incontestablement des nouvelles perspectives.
El Mohoud Mohoud, jusqu'où est-ce qu'on peut miser sur ces relocalisations dans le secteur ?
Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, la relocalisation, elle a un potentiel. Je dirais que ce qui a le plus de potentiel, d'ailleurs, c'est la non-délocalisation plus que la relocalisation. C'est-à-dire le fait qu'on ait une diminution de la tendance à vouloir fragmenter la chaîne de valeur très loin et réimporter le produit final. Alors, il y a deux directions. La direction qui vient d'être donnée est juste, c'est-à-dire que dans les secteurs de luxe, de mode, un des facteurs clés de la compétitivité, c'est pas seulement le coût, mais la différenciation des produits. Et en particulier, quand on se met sur le moyen haut de gamme, la question de la marque et du lieu de fabrication compte. Donc le Made in France, les éléments de différenciation peuvent jouer hein, dans l'industrie du luxe, mais aussi de la mode. On a vu L'Oréal relocaliser également. Donc il y a toute une série de consommateurs qui vont être de plus en plus sensibles à cette histoire de lieu de fabrication pour les produits à destination de la consommation finale des ménages. Mais il y a aussi, dans le textile habillement, une régénérescence technologique qui est liée à tout ce qui est nouveaux matériaux, qui pénètre la biotechnologie, qui pénètre d'autres secteurs de l'industrie, avec de la recherche-développement qui n'est pas énorme, mais qui commence à se développer. Des textiles, liés à l'industrie de la santé. Enfin, il y a toute une série de régénérescence par le produit lui-même qui fait que l'industrie peut repartir. Et là, effectivement, la France, comme d'autres pays industrialisés, peuvent avoir une chance de remonter. Puis il y a un troisième élément.
Mais pardon, dans quelle proportion ? Je voudrais qu'on mette un peu des chiffres là-dessus. Si je me trompe pas, vous me corrigez, mais on était à la fin des 30 Glorieuses dans le secteur à peu près en France à 160 000 emplois, à peu près. Aujourd'hui, on nous dit on est entre 10 et 15. C'est très difficile d'évaluer, mais en gros, entre 10 et 15. D'abord, est-ce que c'est bien ça? Et jusqu'où est-ce qu'on peut espérer créer des emplois dans ce secteur?
Moi, je pense qu'il ne faut pas non plus faire... Oui, c'est juste. Les chiffres,
sont bons. D'accord.
La tendance, c'est à peu près ça.
Oui, on a aujourd'hui, grosso modo, un peu plus de 100 000 emplois, voilà. Si vous prenez le textile et l'habillement, je dirais, d'emplois industriels. Hein. On ne compte pas les vendeurs, etc.
De fabrication.
Voilà, des emplois, ouais. Des emplois de fabrication. Donc, il y a une tendance à l'augmentation.
Mais jusqu'où est-ce que ça peut augmenter?
À mon avis, il ne faut pas s'attendre à une réindustrialisation massive de la part des emplois, parce que cela va de pair avec l'automatisation, l'introduction d'équipements automatisés programmables, les sciences de données. Regardez ce qu'a vient de faire Amazon, qui a breveté, encore une fois, à partir en partant de la distribution, de ce qu'elle sait faire, et des millions de milliards de données, une industrie manufacturière, stricto sensu, de production de vêtements aux États-Unis pour coller au plus près de la demande en utilisant les sciences des données, l'intelligence artificielle. Et ça n'a pas créé beaucoup d'emplois. Ça a recréé une industrie manufacturière, une usine de vêtements aux États-Unis, mais pas dans les pays à bas salaire. Mais ça n'a pas, c'est quand même assez beaucoup d'opérateurs, beaucoup de distribution. La valeur ajoutée, elle s'est polarisée sur la conception et sur le marketing.
La relocalisation, voilà. C'est aussi le fruit de la robotisation, de l'automatisation, et donc ça crée pas forcément autant d'emplois qu'on pourrait le penser. Voilà, Dominique Jacomet, sur ce point.
Oui, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a les emplois industriels qui sont importants, mais c'est une industrie qui, du fait justement du marketing, de la distribution, crée énormément d'emplois, je dirais, tertiaires, entre guillemets, de services qui viennent compléter les emplois industriels. Et c'est pour ça que si vous prenez, par exemple, l'ensemble de l'industrie de la mode en France, en allant assez loin, en incluant le cuir, la joaillerie, etc., vous arrivez à 500 000 emplois directs, ce qui est considérable, parce que vous avez tous ces emplois de service.
El Mohoud Mohoud a utilisé un mot sur lequel il faut peut-être s'arrêter, en particulier quand on parle d'habillement, de textile, innovation. Vous avez consacré d'ailleurs un chapitre de votre livre, Dominique Jacomet, à cette question de l'innovation. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire l'innovation technologique dans le domaine du textile? Est-ce que ça veut dire que vraiment, perpétuellement, on va pouvoir trouver de nouvelles fibres qui vont remplacer notre bon vieux coton? Et jusqu'où cette innovation peut là aussi porter la croissance?
Alors, c'est vrai qu'on pense pas souvent à l'innovation quand on parle du secteur textile-habillement. Alors, il y a deux grands, si vous voulez, domaines d'innovation. Vous avez en effet une innovation technologique
avec les matières, notamment l'arrivée de nouvelles fibres, etc. Vous avez toujours des innovations, mais qui sont plus incrémentales en matière de productivité, mais il y en a toujours, et notamment dans le domaine textile. Et puis vous avez tout ce domaine de l'innovation immatérielle, parce que on parle de marque, on parle de mode, et là vous avez tout ce champ qui est mal, si vous voulez, compris et qu'on sous-estime et qui est considérable.
Elmer Homood.
Oui, c'est tout à fait juste. Enfin, les économistes ont tendance à différencier trois types d'innovation. Des innovations de produits qui permettent de relancer le produit et le cycle du produit et de reconquérir des parts de marché sur le produit. Des innovations de procédés qui permettent, qu'on dirait ricardiennes, au sens où elles réduisent la part du coût de main-d'œuvre dans le coût total de fabrication, elles rationalisent le travail et elles autorisent la substitution du capital au travail. Et donc elles améliorent la productivité. Et puis vous avez une troisième type d'innovation qu'on appelle les innovations verdoniennes, en d'autres termes, qui cumulent à la fois des innovations de procédés et des innovations de produits. Typiquement, le microprocesseur, c'est à la fois une innovation de procédés et de produits. Donc en fait, l'industrie du textile et de l'habillement et du cuir et de la chaussure sont assez, disons, traversées par ces trois types d'innovations dans les fibres textiles, dans les nouveaux matériaux.
Jusqu'où le sent-il ? Regardons, faisons un peu d'histoire, parce que honnêtement, c'est pas évident. Quand on parle d'innovation, on voit bien ce que ça veut dire dans le monde de l'ordinateur, etc., etc. En termes de vêtements, bon, une chaussure, ça reste une chaussure. Alors soit vous pouvez lui mettre un scratch, d'accord, mais enfin bon, c'est pas, ça reste une chaussure, vous voyez ce que je veux dire? Si on regarde l'histoire, la longue histoire dans le domaine du textile, du vêtement, de l'habillement, est-ce que réellement l'innovation technologique a permis de porter la croissance de façon absolument notable? Enfin, Dominique Jacomet?
Plus, moi je dirais, si on prend l'aval de la filière, parce que c'est très différent. Le textile, c'est un monde capitalistique où l'innovation technologique compte. L'habillement, c'est le monde, justement, du désir, de l'immatériel. Mmh. Et là, la force, si vous voulez, de la France, c'est quand même cette créativité et cette création. Parce qu'on sous-estime toujours le design. Les chaussures, le design évolue sans cesse. Et c'est un élément d'innovation, de création, qui contribue à créer de la valeur.
Mmh. Oui, je fais un peu de la provocation.
Non, mais si vous voulez, on entend par innovation des innovations radicales qui vont changer la façon de produire. Non, il faut l'entendre plus comme dans tous les secteurs de l'activité des entreprises qui consiste à mettre un peu de budget de recherche et développement pour essayer de mettre sur le marché de nouveaux designs, plus que de nouveaux produits, de nouvelles variétés de biens, de façon à réduire la concurrence en prix. Comment vous échappez à la concurrence en prix ? Si quelqu'un vient vendre un produit moins cher, bah si vous mettez vous sur le marché un nouveau produit avec du marketing derrière, designé, etc., bah vous dites que c'est un nouveau produit et vous allez avoir une rente provisoire d'innovation. Et cette rente d'innovation, vous allez la garder tant que vous n'êtes pas encore imité. Le problème, c'est que c'était le cas dans les années 70 jusque dans les années 80, mais aujourd'hui, les cycles se sont raccourcis partout. Dans le textile, c'est même pas 15 jours entre le moment où on conçoit un nouveau produit et le moment où on le met sur le marché. Dans la téléphonie mobile, c'est 2 mois, 3 mois, enfin, alors que l'automobile, je cite souvent ce cas parce que c'est un cas typique. Dans les années 70, le cycle de fabrication entre le moment où on concevait, on mettait la recherche développement pour faire une nouvelle voiture et le moment où on la mettait sur le marché s'écoulait 12 ans en moyenne. Aujourd'hui, il s'écoule 18 mois maximum. Mmh. Je veux dire, même 6 mois, on fait des variétés, des designs.
Et dans le textile, vêtement, c'est quoi? C'est 3 semaines?
C'est même pas 3 semaines. C'est
ça dépend
des regardez ces histoires de sciences de données, cette capacité de ces gros groupes qui sont en position de plus en plus oligopolistique à s'accaparer des parts de marché, eh bien, on connaît de plus en plus, on personnalise la demande et on fabrique des petites séries extrêmement rapidement. Donc c'est ça qui est aussi un obstacle à une délocalisation infinie, et un facteur de relocalisation, mais c'est aussi un obstacle à une réindustrialisation par des créations massives d'emplois. Donc si on entend relocalisation, réindustrialisation, on fait peut-être une petite erreur de glissement.
Dominique Jacomet, et puis ensuite on va s'intéresser au Portugal, on va retrouver Paulo Vaz. Je vous en prie. Vous voulez réagir sur ce point ?
Sur ce point, je pense en effet qu'on parle de mondialisation, mais les aspects régionaux sont très importants. Dans le succès d'ailleurs de la Chine et de l'Asie, on voit que la part du chiffre d'affaires qui est réalisé à l'intérieur de la zone asiatique est considérable. Mmh. On voit la Chine et le Japon, par exemple, dans nos métiers. Et il en va de même pour l'Europe et les pays voisins. Vous avez la Turquie, vous avez le Maroc, la Tunisie, on parlait des pays de l'Est. Donc tout cet écosystème a à nouveau des opportunités pour toutes les raisons qu'on vient d'indiquer. Donc la France, l'Italie, on va parler du Portugal, etc. On voit là, si vous voulez, un changement et la part, si vous voulez, des échanges intra-européens a beaucoup augmenté, si on prend l'ensemble de cette zone, un peu euro-méditerranéenne, par rapport, si vous voulez, aux flux mondiaux et donc des localisations de proximité versus des localisations lointaines.
On est avec vous, Dominique Jacomet. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Mode textile et mondialisation. Elmohou Mouhoud, auteur, vous, notamment de mondialisation et délocalisation des entreprises. Cas pratique, direction le Portugal.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
On avait le choix entre deux stratégies. Engager la guerre des prix pour se confronter aux Asiatiques ou se mesurer au meilleur, en l'occurrence, les marques italiennes. On n'a pas eu de doute. On a fait le pari de la qualité, du design et du service pour parvenir à fabriquer un produit d'excellence à un prix compétitif. C'était une solution naturelle, la meilleure stratégie qui s'offrait à nous. S'il y a 15 ans, on avait fait le pari du prix, il est probable que cela aurait été un suicide collectif pour l'industrie de la chaussure au Portugal.
Voilà, on entendait à l'instant Paulo Gonçalves de la Fédération patronale de la chaussure. En 2008, le Portugal avait été l'un des pays d'Europe les plus durement touchés par la crise économique. L'industrie textile, ancien fleuron du pays, grâce précisément à des coûts de production relativement bas, avait déjà été très ébranlée par l'ouverture du marché européen à la Chine au début des années 2000. La crise économique avait semblé lui porter un coup fatal et pourtant, eh bien, 10 ans plus tard, le secteur fait office de modèle pour le pays, devenant même le symbole d'une industrie revitalisée et même internationalisée. On va essayer de comprendre comment. Paulo Vas, bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes l'ancien président de l'ATP, qui est l'Association du textile et de l'habillement du Portugal, qui représente à peu près 500 entreprises dans le secteur. Et aujourd'hui, vous présidez l'Association des entreprises du Portugal. Revenons peut-être sur les différents chocs qui ont ébranlé l'industrie textile portugaise. D'abord, les années 2000, l'ouverture du marché, l'entrée de la Chine dans l'OMC, et donc l'arrivée d'un nouveau concurrent. On a également très vite l'élargissement à l'est de l'Union européenne, 2004, avec... là aussi, de nouveaux acteurs qui vont arriver en compétition. Quel a été l'effet de tout cela, Paulo Vas, ce double choc compétitif pour le Portugal et évidemment pour le secteur du textile qui nous intéresse en particulier? L'effet de tout cela, Paulo Vas?
C'était un effet vraiment dramatique, on peut le dire. Parce que cet ensemble de chocs compétitifs, ça commence pour l'ouverture des marchés, la libéralisation du commerce textile mondial avec la fin de l'accord de multifibre. On peut dire aussi l'arrivée de la Chine dans le marché textile mondial d'une manière, on peut dire, écrasante parce qu'il devient... ils ont pris pratiquement 50% de tout le business au niveau mondial dans cette très courte période du temps. Et ajoutant à tout ça, nous avons eu aussi un certain nombre des phénomènes qui sont plus internes au niveau de l'Europe, comme l'élargissement de l'Europe aux pays de l'Est, l'adhésion du Portugal à la monnaie euro, et tout cela est finalement, bien sûr, la crise économique et financière globale en 2008, qui a vraiment
fini d'achever le secteur. Mais qu'est-ce qu'il en reste justement à ce moment-là, à la fin des années 2000? Il reste quoi de ce secteur en particulier?
C'était vraiment ce qu'il a resté. C'était vraiment un ensemble des entreprises qui ont vraiment résisté d'une manière extraordinaire à tout cela. Je peux dire que peut-être c'était vraiment la cause de cette énorme capacité de résistance, de cette capacité de réinvention, c'était le fait de que ces entreprises sont la majeure part de ces entreprises ont été des petites et moyennes entreprises et surtout familières.
Sachant que même si effectivement Paolo Vass, vous avez raison de dire que il y a une résistance, une résilience même très forte du côté de ces entreprises portugaises, et en même temps il y en a beaucoup qui sont restées sur le carreau. Quand on regarde un petit peu les chiffres, on avait dans les années 90 250 000, 300 000 employés dans le secteur. Aujourd'hui, c'est la moitié.
C'est la moitié, c'est moins de la moitié.
Oui,
ces entreprises, on a fait vraiment une restructuration profonde, même dramatique. Elles ont maigri énormément, mais elles ont aussi fait un énorme changement en termes de modèle de business.
Alors justement, Paul Levas, on va voir ce qui a changé, mais si vous permettez, est-ce que vous pouvez aussi nous expliquer, il y a le rôle évidemment des entreprises, mais il y a aussi peut-être celui de l'État. Qu'a fait à ce moment-là l'État portugais pour essayer de, sinon sauver, en tout cas remettre sur de bons rails les entreprises du secteur?
Bon, je dirais que l'État a fait beaucoup de choses, et il fait au moins... Il avait la capacité de pas interférer négativement. Ça veut dire que le Portugal a continué à avoir des fonds européens pour la cohésion et une partie de ces fonds ont été versés à ces entreprises, à ces sociétés qui ont fait ces changements, la restructuration, surtout dans les deux vecteurs, innovation, internationalisation. La plupart les soutiens qui ont venu des politiques publiques ont été précisément sous ces deux axes de intervention et aujourd'hui on peut le dire qui sont les paris justes, parce que c'était surtout avec l'innovation. Quand on dit innovation, c'était innovation technologique, mais aussi la créativité, le design et surtout l'élargissement de la présence de ces entreprises au niveau des marchés internationaux qui ont fait, on peut dire, cette énorme restructuration. Nous avons monté énormément dans la valeur et surtout nous avons augmenté surtout la productivité des entreprises. Aujourd'hui, avec la moitié des entreprises, avec la moitié des employés, on produit plus et surtout on exporte bien plus parce que...
Où est-ce que vous exportez? Dans quel pays en particulier?
Nous, certes, les pays d'export du textile et de l'habillement portugais c'est surtout l'Europe. Presque 80% de tout qu'on vend, on vend en Europe, aux pays qui sont traditionnellement nos clients, comme l'Espagne, l'Angleterre, la France, l'Allemagne, l'Italie, mais aussi nous avons diversifié les exports pour des autres pays qui ne sont pas vraiment classiques, comme les États-Unis, le Canada, la Colombie, la Chine, le Japon, la Corée du Sud.
Vous restez avec nous, Paolo Vass, j'ai encore une ou deux questions à vous poser, mais je voudrais faire réagir peut-être nos invités qui sont là avec nous en plateau, El Mouhoud et Dominique Jacomet, sur ce cas portugais.
Le cas portugais illustre justement le fait qu'il n'y a pas de fatalité dans ces métiers et qu'à un moment donné, on peut faire des rééquilibrages à la condition qui vient d'être exposée, c'est-à-dire des gains de productivité et une montée en gamme. Parce que, évidemment, sur les commodities, comme on dit, sur ces grandes, si vous voulez, marchés de commodités, les pays européens n'ont pas réellement d'avenir.
Et de faire des restructurations, ce qui signifie destruction d'emplois.
Voilà.
Mais ça va avec, vous l'avez oublié.
C'est vrai, évidemment, qu'il y a à ce moment-là des destructions d'emplois. Mais aussi, un autre élément, c'est qu'on dit que les exportations sont essentiellement intra-européennes dans le cas du Portugal. Mais il faut avoir en tête que la Chine, c'est un formidable concurrent, c'est vrai, mais c'est aussi un marché
puisque le marché chinois, c'est déjà la taille, si vous voulez, du marché américain et du marché européen.
C'est quand même assez loin, la Chine. Les premiers, c'est la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, oui, l'Espagne, le Royaume-Uni, bien avant la Chine.
Mais c'est une perspective.
Ouais, c'est une perspective. El-Mouhoumouhoud.
Oui, je crois que c'est l'exemple même de la fois d'une crise majeure qui a été liée au fait que le Portugal était un petit pays, un peu comme la Tunisie d'une certaine manière. Le Portugal était déjà très inséré dans les chaînes de valeur européennes, hein, dans l'industrie du textile, l'habillement, du cuir, de la chaussure et même l'automobile. À l'époque, il y avait ce qu'on appelait le trafic de perfectionnement passif. Avant qu'il y ait une liberté totale de circulation des marchandises, on taxait les produits qui revenaient du Portugal ou d'Espagne que sur la valeur ajoutée, ce qui nous permettait, nous, de mesurer la délocalisation, ce trafic de perfectionnement passif. Évidemment, c'est devenu caduque par la suite, mais c'était déjà un long processus. Donc la chaîne de production dans l'habillement, dans le textile, surtout le cuir et la chaussure portugaise, a toujours été insérée à l'Allemagne, à la France et à d'autres, enfin aux entreprises européennes. Là, la résurgence de cette industrie, effectivement, elle est liée à cette capacité, après avoir subi un très très fort choc, à sortir du choc de la fin de l'accord multifibre. Et l'innovation technologique, la différenciation des produits, c'est la seule solution pour rester dans la course dans des secteurs dans lesquels effectivement les coûts salariaux sont extrêmement élevés. Mais il faut pas non plus oublier que le Portugal, ça n'a pas été tellement signalé, a connu un peu comme l'Espagne une déflation salariale très forte durant la période d'après la crise des subprimes, puisque l'un des processus d'ajustement du Portugal, là je parle dans son ensemble, hein, comme macroéconomie d'ensemble de ce pays et comme de l'Espagne, ça a été aussi une déflation salariale de près de 30%, ce que n'a pas été le cas ni en France ni en Allemagne. Donc ça a aidé d'une certaine manière l'industrie portugaise à se régénérer. Maintenant, je pense que dans l'ensemble de l'économie, l'avenir de l'industrie du textile, l'habillement, le cuir et la chaussure, il repose, on le voit, très pleinement sur la capacité à faire des produits nouveaux, à faire des textiles nouveaux et à ne pas rester uniquement sur les valeurs ajoutées faibles et les gammes faibles. C'est ce que semble montrer le Portugal.
Et est-ce qu'il n'y a pas peut-être des choses à attendre du côté des habitudes, des pratiques, parce que le consommateur est aussi parfaitement conscient que tout cela n'est pas forcément très bon pour l'environnement, parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais tout cela a un impact, et peut-être que demain les consommateurs vont être un peu plus regardants sur ces choses, peut-être un peu moins versatiles, cesser de s'acheter 15 chemises par an, que sais-je encore. Est-ce que c'est quelque chose qu'on sent déjà dans les pratiques des consommateurs, Dominique Jacomet, et est-ce que c'est quelque chose que l'on sent aussi du côté des producteurs eux-mêmes,
oui,
des marques?
Très, très nettement, si vous voulez. Vous avez deux...
C'est pas l'impression que ça donne, je suis pas un spécialiste, mais de l'extérieur...
Alors, c'est vrai que c'est un mouvement, si vous voulez, qui a commencé il y a relativement peu de temps et qui s'accélère. Mmh. Alors, si vous prenez le secteur du luxe, qui n'est pas sous la pression, je dirais, des ONG, etc., puisqu'ils ne fabriquent pas au Bangladesh, etc., là, vous avez, ils ont créé une pression interne, en quelque sorte, puisque ces groupes, réellement ont des stratégies de développement durable, si on pense à Kering, à LVMH et à d'autres. Et puis, tous ceux qui sont sous la pression, justement, notamment le chapitre responsabilité sociale, eux, ils sont obligés d'avancer. Voyez ce qui a été fait après la catastrophe du Rana Plaza.
Donc, on en parlera demain.
Il y a quand même un vrai changement. Alors, du côté du consommateur, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a une prise de conscience et puis ensuite, il y a les actes. Donc, le passage de la prise de conscience aux actes, notamment du fait du problème des prix, est un peu compliqué. Mais à l'IFM, il y a une étude qui a été faite il y a pas longtemps qui montre qu'il y a maintenant, en France par exemple...
L'IFM, c'est l'Institut français de la mode.
L'Institut français de la mode, un noyau dur de 25% de consommateurs pour lesquels vraiment c'est le développement durable, à la fois chapitre responsabilité sociale et environnement, c'est vraiment une préoccupation majeure dans leurs achats. C'est un début, hein, et c'était évidemment pas suffisant. On voit également que la partie sociale est devenue très importante. Donc, c'est quand même une évolution à noter.
On en parlera demain. Paolo Vas, j'avais dit que je vous redonnerais la parole, je le fais. Est-ce qu'il y a un point sur lequel vous voulez revenir? Et moi, il y a un point sur lequel peut-être j'aimerais bien vous entendre, c'est est-ce que justement, du côté du Portugal, les marques commencent à être un peu vigilantes sur tous les points qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire les effets sociaux néfastes, l'impact environnemental? Est-ce que, compte tenu de cette force en termes d'innovation, on a déjà des choses du côté du Portugal?
Paolo Vas. Bien sûr, comme vous savez, la plupart de l'industrie textile et habillement portugais, ils travaillent dans une relation business to business et entre les entreprises. Et il faut accompagner surtout les entreprises qui sont plus alignées aux nouvelles tendances du marché. Et la nouvelle tendance du marché, c'est sans doute tout ce qui concerne la durabilité, tout ce qui est le développement durable. La plupart des entreprises sont très conscientes de ça, et au-delà de ça, elles comprennent, les entreprises, elles comprennent très bien que le pays, le Portugal, il est dans ce moment dans une situation avec un avantage vis-à-vis de la concurrence.
Pourquoi? Même si Paulo Vasquez, il faut le dire, entre la prise de conscience et la mise en place de nouvelles pratiques, il y a quand même un fossé, mais ça on le verra demain. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous, Paulo Vas. El Mouhoud, j'ai vu que vous vouliez intervenir, peut-être un tout dernier mot, je vous en prie.
Non, je veux dire, je suis d'accord qu'il y a des sensibilités en faveur des règles d'éthique, d'environnement et aussi de conditions de travail. Simplement, les mécanismes d'incitation qui sont en place sont très faibles. Donc, il ne faut pas surestimer ça parce que on n'a pas le droit, par exemple, de mettre autrement que par la déclaration du Made in France. On n'a pas le droit de. Vous savez, j'avais fait une étude il y a quelques années sur l'industrie de l'habillement. Il y avait trois types d'entreprises. Il y avait celles qui délocalisaient. Celles qui délocalisaient et baissaient leurs coûts en délocalisant et baisser leurs prix pour exporter plus par la compétitivité prix. Celle-là, elle jouait en gros le jeu de la théorie économique. C'est celle qui délocalisait mais maintenait leurs marges et maquillait leurs opérations de délocalisation parce qu'il n'y a aucune obligation de traçabilité de la chaîne de valeur. Ouais. Donc on est quand même, il faut aller un peu plus loin du point de vue de l'incitation pour que ça ne reste pas simplement du désir des consommateurs de voir arriver en votant par leurs pieds des prises en compte de l'éthique, de l'exploitation des enfants. Vous allez en parler demain et d'autres éléments qui restent désastreux dans l'industrie du textile et de l'habillement.
Ben voilà, vous avez fait mon travail. Ça sera demain, ça. Donc rendez-vous demain à 11h. En tout cas, un grand merci à Paolo Vas d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes l'ancien président de l'Association du textile et de l'habillement du Portugal. Et doublement merci parce que vous êtes adressé à nous en français et vous avez un français parfait. Un grand merci d'avoir été avec nous en direct du Portugal.
C'est ok, tu es in. Après quoi, tu es KO, tu es out. C'est idem pour la boxe, le ciné, la mode et le cashbox.
Et un grand merci à nos deux invités ici en plateau. El Mouhoud, je rappellerai l'un de vos ouvrages, parce qu'il y en a d'autres, mais enfin celui-ci qui m'a aidé à préparer l'émission Mondialisation et délocalisation des entreprises paru à la Découverte. Un grand merci Dominique Jacomet. Je rappelle vous concernant mode, textile et mondialisation, qui est extrêmement précis sur les sujets qu'on vient d'évoquer ce matin. C'était chez Economica. Un grand merci à tous les deux. On poursuivra nos pérégrinations autour de ce vêtement, cette odyssée du vêtement demain pour l'heure 11h53. C'est Brice Couturier, Centre du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors que nous entrons, Brice, dans une nouvelle décennie, que peuvent prédire les économistes de ce qui nous attend dans les 20 prochaines années?
La manière la plus courante de tenter d'annoncer l'avenir est de prendre en considération les dernières tendances constatées et puis d'extrapoler. C'est ce que fait Jim O'Neill. On appelle de plus en plus les années 10 une décennie perdue, constate ce professeur à l'université de Sheffield en Grande-Bretagne. Un grand nombre de pays ne sont pas parvenus à réaliser leur croissance potentielle. La croissance mondiale au cours de cette décennie écoulée aura été d'environ 2,5% l'an. Si une amélioration de la productivité n'intervient pas dans les années prochaines, il devrait en être de même durant ces années 20. La croissance restera relativement faible compte tenu de la démographie de la population mondiale puisqu'elle croît, celle-ci, à 1,2% l'an et cette langueur de la croissance interroge. Alors Jim O'Neill, dans le papier que je cite, détaille région par région. L'Europe et le Japon ont des populations vieillissantes, le nombre de personnes au travail va y diminuer, tandis que le poids des pensions de retraite et des dépenses de santé pèsera sur les budgets nationaux. Les performances économiques européennes ont été décevantes durant les années 10 du 21e siècle. Eh bien, elles devraient l'être au moins autant dans la décennie qui s'ouvre. Ce n'est donc pas de ce côté que peut venir la croissance mondiale. La Chine, vous me direz, ah oui, la Chine, locomotive de la croissance mondiale depuis une vingtaine d'années, ne peut plus compter, elle, sur l'armée de réserve des travailleurs venus de la campagne. Une nouvelle décélération de la croissance est hautement prévisible, je cite, « en raison des réalités démographiques chinoises ». La croissance réelle devrait néanmoins atteindre entre 4,5 et 5,5 l'an durant les 10 prochaines années en Chine. L'empire du milieu bénéficiera des investissements massifs consentis dans des domaines stratégiques. Cela lui permettra de compenser cette absence d'un nouvel appoint de main-d'œuvre. Aux États-Unis, le potentiel de croissance ne dépasse pas 2% l'an. Depuis plusieurs années, ce pays utilise à fond toutes les recettes keynésiennes connues pour booster sa croissance. Quantitative easing, création monétaire à tout va, taux d'intérêt à zéro, déficit budgétaire massif. Et malgré une mobilisation impressionnante de la force de travail, puisque le taux de chômage actuel aux États-Unis est le plus bas constaté depuis un demi-siècle, eh bien la croissance américaine reste molle. Le principal sujet d'inquiétude, c'est la productivité, là aussi, qui ne progresse pratiquement plus. Et en fait, ça fait 15 ans qu'on constate ce phénomène et il a donné lieu à des controverses entre experts.
Ce qu'on appelle la stagnation séculaire.
Oui, c'est la théorie développée par Larry Summers et Herbert Gordon. Pour eux, la forte croissance de l'après-guerre en Occident était due à des facteurs conjoncturels qui donc ne se reproduiront pas. C'était l'entrée massive des femmes sur le marché du travail. L'élévation continue du niveau d'éducation, elle aurait atteint cette fois-ci un pic, paraît-il. Les ratios dette publique sur PIB, les dettes étaient tolérables et même bénéfiques lorsqu'elles provoquaient une croissance grâce à laquelle les États pouvaient les rembourser rapidement, et bien ce n'est plus le cas actuellement. Mais surtout, d'après Gordon, les fameuses révolutions technologiques dont on attendait de spectaculaires progrès de la productivité du travail n'ont pas tenu leurs promesses. Et on se souvient là de la fameuse boutade de Robert Solow, le prix Nobel d'économie 1987, qui disait « On voit partout qu'on est entré dans l'âge de l'ordinateur, sauf dans les statistiques ». Selon Robert Gordon, la plupart des grandes innovations récentes n'ont pas créé de nouvelles activités, ni boosté véritablement celles qui existaient déjà. Elles se sont contentées de déplacer le nœud d'activités déjà existantes. Exemple, le commerce en ligne. Il n'a pas fait progresser le commerce global du tout. D'autres, vous me direz, comme Brynjolfsson ou McAfee, les auteurs de l'ouvrage « Le deuxième âge de la machine », estiment au contraire que les innovations récentes n'ont pas encore produit tous leurs effets, mais que l'avenir est prometteur. L'économie mondiale n'a pas encore connu le boom de la productivité, mais d'après les auteurs de cet ouvrage, eh bien celui-ci nous est toutefois promis. Reste à s'interroger, vous me direz, comme le font certains, sur l'intérêt d'une croissance soutenue de l'activité économique dans un contexte de réchauffement climatique. Faut-il prôner la décroissance ? Non, répondent deux fameux économistes, Joseph Stiglitz à gauche et Michael Boskin à droite. Si la croissance économique n'existe plus, écrit Stiglitz, plusieurs milliards de personnes demeureront privées d'une alimentation suffisante, d'un logement, de vêtements, d'une éducation et de soins médicaux. Il faut donc favoriser un développement vertueux visant, comme le font les Européens et eux seuls, la neutralité en carbone pour le demi-siècle. Boskin, lui, à droite, s'en tient au théorème de John Kennedy, qui disait, vous savez, « la marée montante soulève tous les bateaux ». Aujourd'hui, la croissance est encore trop faible, dit-il, pour améliorer le quotidien des pauvres des pays riches. Il en faut donc davantage. Mais Boskin estime que la réalité de la croissance économique est actuellement mal évaluée. Et il prend pour exemple le nombre de services proposés par l'économie numérique qui, parce qu'ils sont gratuits, ne sont pas suffisamment pris en compte. La croissance, dit-il, est plus soutenue qu'on ne le croit.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture. On vous retrouve demain